Les rayures dans la nature, c'est le sujet de la une aujourd'hui, Axel.
Oui, Mathieu, et c'est aussi un des grands mystères de la biologie du développement. Sur le dos du zèbre, par exemple, sont-elles disposées parfaitement au hasard ou suivent-elles des règles bien précises? À quoi servent-elles? Ces questions, les scientifiques se les posent depuis plus d'une centaine d'années et une équipe de chercheurs français publie cette semaine une partie de la réponse dans la revue Science. Pour en parler, on accueille celle qui a coordonné ces travaux, Marie Manceau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche pour le CNRS et chef d'équipe au Centre pour la recherche interdisciplinaire en biologie au Collège de France. Alors, vous n'avez pas travaillé sur les zèbres, autant le dire tout de suite. Vous avez travaillé avec des cailles et des faisans, c'est joli aussi. Pourquoi est-ce que vous avez choisi des gallinacés pour travailler sur les rayures alors?
Oui, c'est vrai que j'aurais préféré les zèbres, ou le léopard, ou la girafe. C'est quand même un peu plus fun. Mais le problème, c'est que c'est difficile d'obtenir des embryons pour ces animaux. Ah. Nous, on travaille sur l'embryon, puisque on travaille sur la formation de la peau, qui est précoce, qui se passe pendant le développement de l'embryon. Et donc, avoir accès aux embryons, c'est difficile. Donc, on fait la chose la plus simple, c'est-à-dire de récupérer des œufs fertilisés d'oiseaux. Donc, c'est pour ça que, comme beaucoup de mes collègues biologistes du développement, je travaille sur l'oiseau. Alors après, pourquoi les gallinacés en particulier, ou les galliformes, donc tout ce qui est cailles, faisans, perdrix, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce que on a un accès facile à ces œufs. Il suffit de prendre sa voiture, d'aller en Normandie, serrer la main d'éleveur.
C'est plus facile que le zèbre.
C'est un peu plus facile que le zèbre, ouais. Et voilà, ils nous fournissent des œufs. Donc ça a été une grosse partie du travail du postdoc Nicolas Hoppe qui a fait la majeure partie du travail dont je vais parler aujourd'hui, ouais. Que je salue d'ailleurs. Donc voilà, il a fait ça. Et sinon, la deuxième raison pour laquelle on a choisi ces oiseaux, c'est qu'ils ont des rayures. Ils ont des rayures sur le dos qui s'étendent de la tête à la queue, ouais. Et qui alternent noir et jaune. Et il y a pas mal de variations dans ces rayures. On s'intéressait très près justement à cette variation.
Alors avant vos résultats, qu'est-ce qu'on ne comprenait pas bien avec ces rayures? Pourquoi les biologistes s'y cassent les dents à peu près depuis 100 ans?
Alors en fait, ce qu'on pensait, c'était dû principalement à des travaux qui ont été faits chez le poisson, beaucoup le poisson zèbre, puisque les poissons ont énormément de ces motifs pigmentaires, donc on dit périodiques, c'est-à-dire répétés, comme ouais. Des rayures, des pois, etc. Donc il y en a une énorme diversité, le poisson c'est super pour ça, et puis il y avait aussi beaucoup de travaux de mathématiciens, de théoriciens. Les deux ensemble ont donné cette idée qu'en fait le motif pigmentaire périodique serait aléatoire. C'est-à-dire que la peau qui se développe au départ est homogène et puis à un moment donné on a un développement de rayures ou de pois de façon aléatoire. Et nous ce qu'on montre c'est que ça l'est peut-être mais pas entièrement. Et qu'en fait, ces mécanismes aléatoires obéissent certainement à des plans, à des choses qui se passent avant dans le développement précoce.
Alors, on va aller regarder comment vous avez fait. L'idée, c'est d'aller regarder l'embryon, vous l'avez dit, pour voir comment la pigmentation se met en place. Comment est-ce que vous avez procédé alors avec ces œufs?
Alors, donc, ce qu'on a essayé de faire, du coup, c'est de trouver la source. La source de cette information qui va dire « mets la bande là, la mets pas là », etc. Donc, vraiment de cette position. Et donc, pour trouver cette source, on fait des expériences qu'on appelle de transplantation, c'est-à-dire qu'on a pris deux espèces qui varient justement dans la position de ces bandes, etc., et la couleur et la taille, à savoir la caille et le faisan. Et on donc des œufs fertilisés, on a pris des embryons et on prend le morceau de tissu de caille.
Une greffe, quoi.
On fait une greffe, voilà, on le transfère dans le faisan. Et ensuite, on remet le faisan à l'incubateur, enfin l'œuf de faisan à l'incubateur.
On referme l'œuf.
On referme l'œuf avec du scotch, on le remet à l'incubateur, on attend quelques jours. Et puis on regarde ce que ça donne sur le motif pigmentaire.
Et ça donne une caille alors ou pas?
Et alors donc deux solutions. Soit ça donne quelque chose qui ressemble au motif pigmentaire d'un faisan. Ah oui. À ce moment-là, on n'a pas greffé le bon tissu, le tissu source. Soit ça donne quelque chose qui ressemble à une caille. Et à ce moment-là, on a mis le doigt sur le tissu source, on l'a greffé. Et donc c'est comme ça qu'on a identifié la source des signaux de position.
Donc en fait, c'est une chasse au trésor. On cherche le bon tissu à greffer. Une fois qu'on a un faisan qui ressemble à une caille, ça veut dire qu'on a trouvé le bon tissu. Et ça, vous l'avez trouvé.
Ouais, c'est un peu plus cadré qu'une chasse au trésor, peut-être.
Une chasse aux œufs.
Mais ouais, une chasse au tissu, on va dire, au tissu source. On avait évidemment des tissus candidats. Celui qui va donner naissance à la future moelle épinière, qu'on appelle le tube neural, était un des très bons candidats. Parce qu'on savait qu'il donne naissance aux cellules pigmentaires. Il s'avère que c'est pas celui-là. Et donc, on a testé le suivant, qui s'appelle le somite, qui est un tissu embryonnaire temporaire qui donne naissance aux os, aux muscles et aux cellules de la peau. Et c'est lui qui va donner cette information de position.
Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a comme information dans ce sommet que vous avez découvert comme étant la source de la pigmentation?
Mais maintenant, c'est la grande question.
Ah, c'est ça, c'est la suite.
Ça, c'est la suite. C'est-à-dire que maintenant, on sait que c'est le sommet qui est responsable, qui est à l'origine de cette information. Maintenant, quelle est la nature de cette information? Quel type de molécules? Comment vont agir ces molécules? Quelles vont être les conséquences sur le tissu? Ça, c'est ce qu'on cherche à comprendre.
Mais maintenant. Alors, est-ce que ce sommet contredit l'aspect aléatoire, justement, des rayures ou pas? Est-ce que c'est une preuve pour dire que, justement, c'est pas aléatoire?
C'est une preuve pour dire qu'on a un plan. Ouais. C'est-à-dire que les somites sont distribués selon une ligne, selon l'axe antéro-postérieur, ouais. Et il va donner cette directionnalité et la position bien précise des bandes. Donc c'est une preuve pour dire que ça n'est pas entièrement aléatoire. Ça ne veut pas dire qu'après, ou même avant, il n'y a pas aussi de mécanisme aléatoire. On peut avoir un mécanisme aléatoire qui est responsable de donner l'information au somite, qui lui donne le plan, et ensuite c'est aléatoire, etc. On peut avoir une chaîne comme ça, temporelle, au cours du développement. C'est possible.
Alors, les rayures sur le dos de ces gallinacées, ou alors peut-être même sur le dos des zèbres, est-ce qu'on sait vraiment à quoi elles servent?
Alors, sur le dos des zèbres, il y a eu presque autant de théories.
Ah oui, ouais, voilà. Tous les ans, il y a un papier sur
c'est
le dos
ça,
des zèbres.
C'est ça. C'est difficile de trouver les raisons écologiques de ces rayures, parce qu'il faudrait pouvoir reproduire l'évolution et faire des expériences sur des dizaines de milliers d'années pour pouvoir tester à quoi ça sert. Donc, c'est évidemment compliqué. On peut faire des hypothèses. On pense que d'une manière générale, les rayures ont une fonction de camouflage. Et puis les petits poussins de gallinacées dont je vous parlais, qui ont ces rayures, eux sont au niveau du sol, dans des buissons, ce sont des oiseaux qui nichent au sol, donc les poussins sont au sol, ils volent assez peu, et donc c'est certainement une manière de les camoufler dans ces branchages, ces feuillages. Voilà, mais ça c'est une hypothèse parmi d'autres, et j'avoue que ça c'est pas vraiment notre domaine de recherche.
Merci beaucoup en tout cas Marie Manceau. Publication Science, hein, on la doit donc à votre équipe française, et c'est promis, on essaiera de vous trouver des embryons de zèbres pour les prochaines recherches. Merci à vous, merci d'être venu. Merci Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la philosophe et philologue Barbara Cassini obtient la médaille d'or du CNRS. Membre de l'Académie française, elle a dédié sa carrière au pouvoir des mots, du langage, de la traduction comme moyen de faire avec les différences culturelles. Barbara Cassini sera d'ailleurs notre invitée mardi à 14h. Les coquilles Saint-Jacques vont mieux quand on prend soin d'elles. En Baie-de-Seine et de Saint-Brieuc, deux campagnes d'évaluation de l'Ifremer montrent que la gestion raisonnée a du bon. La mise en place date et les horaires de pêche ainsi que l'amélioration de la sélectivité des engins ont permis une augmentation de la biomasse exploitable d'environ 20% entre 2017 et 2018. La situation en dehors de ces zones, par contre, est plus inquiétante. En un an, la biomasse a été divisée par deux, par exemple, juste en dehors de la baie de Seine. Les plantes grandissent mieux en Arctique à cause du réchauffement climatique. Une équipe de chercheurs écossais s'est intéressée aux nombreuses plantes grasses qui poussent sur les vastes plaines de l'Arctique. En 30 ans, ils remarquent des changements considérables dans la biosphère. Non seulement les plantes endémiques ont une meilleure croissance et se développent mieux, mais les chercheurs notent aussi l'arrivée de nouvelles espèces plus grandes venues de latitudes plus basses, des changements qui vont vite selon les chercheurs et dont les conséquences globales sont difficiles à prédire. Et puis ne manquez pas ce soir à 17h la finale internationale du concours Ma thèse en 180 seconde à Lausanne, organisée depuis 5 ans par la CPU et le CNRS. Le concours propose aux doctorantes de présenter leur sujet de thèse en 3 minutes. Si vous souhaitez soutenir Philippe Bouteiller, vainqueur du concours national, qui représentera donc les couleurs de la France, vous pourrez vous connecter en direct à 17h sur le site mt180.fr.